7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Nous parlons éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, les cours particuliers ou autres soutiens scolaires après l'école. C'est un débat qui ravive toujours les douleurs et les insuffisances d'un système éducatif. La France, les pays d'Afrique francophone ou encore la Corée du Sud sont des pays champions des petits cours après l'école. Alors pourquoi ces pratiques alors qu'elles sont inexistantes aussi dans bon nombre de pays? Au Bénin, par exemple, le gouvernement a décidé de s'attaquer aux fameux TD dans les établissements scolaires, les travaux dirigés, c'est-à-dire en fait des cours supplémentaires payants. On entendra d'ailleurs le reportage de Delphine Bousquet à Cotonou. Le soutien scolaire et ses pratiques commerciales se nourrissent-ils d'un affaiblissement des systèmes éducatifs ou bien s'agit-il d'un gage d'une meilleure attention à l'enfant? Bien sûr, on attend vos témoignages de parents, d'enseignants, de répétiteurs en tout genre ou tout simplement d'élèves. Vous pouvez nous appeler si vous êtes lycéen au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Je vous présente nos invités. Muriel Poisson dans le studio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions d'éthique dans l'éducation à l'UNESCO. Philippe Colléon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'Acadomia, qui est le numéro 1 du soutien scolaire en France depuis 22 ans. Vous représentez ce que vos détracteurs appellent le marché de l'angoisse, c'est-à-dire 100 000 élèves l'an dernier, c'est bien ça, 3 millions d'heures de cours parallèlement à l'école, hein, on est bien d'accord, et 150 millions de chiffres d'affaires, de quoi interroger l'éducation nationale. Nous sommes également en liaison avec François Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Valence, grâce aux moyens techniques de France Bleu Drôme Ardèche. Mais en fait, vous passez la majeure partie de votre temps, François, dans les écoles du continent africain comme consultant indépendant pour des gouvernements, pour des organisations internationales. Et on peut lire d'ailleurs vos réflexions dans un abécédaire portatif des écoles africaines. Je vous lis quelques messages que, bien sûr, vous pouvez commenter d'auditeurs qui publient, qui postent sur Facebook. Jackie est à Madagascar et nous dit qu'à cause du chômage, beaucoup de jeunes diplômés donnent des cours particuliers sans avoir reçu aucune formation. Cela nuit à la qualité, à l'image de l'enseignement. On a aussi Eugénie qui poste de Douala au Cameroun. On ne peut pas parler d'injustice sociale. Les cours de soutien résultent d'une décision des parents qui constatent un problème dans l'éducation de leurs enfants. Au Cameroun, on trouve des cours particuliers pour tous les prix et ces cours sont des partenaires du système scolaire. En Afrique, il est clairement indispensable d'avoir un professeur particulier après les cours. Les enseignants ont la connaissance nécessaire mais des classes surchargées ou l'absence de matériel. L'âme est également à Douala et nous dit qu'en classe, les leçons visent un niveau moyen. Il faut l'intervention d'un tuteur si on veut s'élever et aspirer à un métier réputé et reconnu. Témoignage d'un enseignant répétiteur. Il est Noël, il est à N'Djamena, la capitale du Tchad. Les classes débordent d'élèves. Ceux que moi j'aide à domicile sont meilleurs en classe du coup. Gustave est à Ziguinchor, en Casamance, dans le sud du Sénégal. Aucun parent d'élève digne de ce nom ne peut priver son enfant de cet avantage. Évidemment, il y a matière à commentaires et vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Que vous évoquent ces témoignages et cette réalité décrite, François Robert? Ça correspond à ce que vous entendez aussi sur le continent?
Oui, bien sûr, on a ces témoignages-là en permanence et c'est clairement relié à l'insuffisance du service public de l'éducation.
Alors, ceci dit, pour les parents qui culpabilisent les autres parents s'ils ne dépensaient pas d'argent pour des répétiteurs, c'est quand même assez violent, Muriel Poisson.
Oui, effectivement. Je pense que la difficulté, c'est que les parents, ils essayent de faire le mieux pour leurs enfants, quoi. Donc, s'il y a des problèmes de qualité dans les écoles, dans les établissements scolaires, s'il y a des classes surchargées, etc., ils essayent de trouver un moyen alternatif de pallier à tout ça. Ils ont envie que leurs enfants réussissent aux examens, donc ils les poussent à aller vers ces cours.
Ce qui est intéressant, Philippe Colléon, c'est que le système éducatif en Afrique, évidemment, n'est pas dans le même état que le système éducatif en France. Néanmoins, ça pourrait être des parents d'élèves français qui posteraient là.
Ah, c'est exactement la même chose. Encore une fois, je crois que le défi d'éducation au niveau du pays, c'est la massification. Donc quelque part, depuis 20-30 ans, et tant mieux, on veut amener 80% du tâche d'âge au baccalauréat. là, ce qu'on entend est dans vos commentaires, c'est les problèmes de parents. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les statistiques, on n'est plus dans les grands nombres. On voudrait donner le meilleur pour son enfant, pour son fils ou sa fille. Donc c'est ce double regard, si vous voulez, qui fait... Parfois une différence d'appréciation.
Et en même temps, la plupart des systèmes éducatifs dans le monde, les familles n'ont pas recours à des répétiteurs, Muriel Poisson.
Enfin, c'est quand même un phénomène qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où il n'existe pas du tout de cours privés d'enseignement. Mais c'est vrai que ça a explosé, surtout dans certaines régions du monde. Donc il y a certaines régions où ça a explosé il y a longtemps. Par exemple, en Asie de l'Est, c'est plutôt les années 60, hein, avec des pays comme la Corée du Sud, Taïwan, le Japon, etc. Après, fin des années 90, c'est beaucoup dans les pays de l'ex-Union soviétique où ça s'est beaucoup développé un peu avec tous les problèmes qu'ont rencontré les systèmes éducatifs à ce moment-là.
Ça dans commence la période post-communiste.
Dans la période post-communiste et notamment à la fin du secondaire pour entrer dans les établissements d'enseignement supérieur. Dans les pays européens, Amérique du Nord, je pense que ça s'est plutôt développé, mais avec bien sûr toujours les difficultés d'avoir des chiffres fiables sur cette question. Et en Afrique, très clairement, ça s'est beaucoup développé au cours des 10-20 dernières années. Et il y a des statistiques qui sont toujours très englobantes, parce qu'on peut-être on le verra, mais il y a beaucoup de formes différentes de cours privés d'enseignement, mais qui montrent que dans des pays comme le Kenya, c'est plus de 80% des élèves en niveau 6 du primaire qui, d'une manière ou d'une autre, suivent des cours privés d'enseignement. À l'île Maurice, c'est des chiffres similaires. Au Malawi, ce sera un peu plus bas, mais c'est plus de la moitié des enfants qui suivent des cours, donc c'est quand même un phénomène massif.
Donc les systèmes anglo-saxons ne sont pas épargnés, même si en Grande-Bretagne, aux États-Unis, c'est pas quand même vraiment dans la culture des familles.
Non, je pense que ça se trouve un petit peu partout, mais peut-être un peu moins important et un peu moins important aussi en Amérique latine. Ouais.
Alors la France a quand même une passion pour les petits cours de soutien scolaire par rapport à d'autres pays développés. 36% des lycéens ont déjà bénéficié de cours, c'est-à-dire depuis qu'ils sont à l'école primaire. Pourquoi cela, dans le fond, Philippe Colléon ? Vous avez une réponse là-dessus, puisque c'est votre marché, le soutien scolaire en France.
J'ai apporté en tout cas une réponse, c'est que la France est un des pays au monde où on demande le plus de travail à la maison. Un élève de terminale doit fournir à peu près 400 heures de travail personnel à la maison. Et si on compare avec les systèmes nordiques, des pays nordiques, Suède, etc., ou même anglo-saxons, le travail se fait à l'école. Et en fait, la vraie discrimination, si je puis dire, en France, elle n'est pas tellement à l'école, elle est surtout l'aide que vous pouvez avoir en dehors de l'école. Ce qui explique à la fois le développement du soutien scolaire, mais aussi une forme de discrimination. Et effectivement, on voit un certain nombre de pays qui travaillent ce qu'on appelle beaucoup plus en pédagogie inversée, où l'apprentissage se fait à l'école. En France, l'apprentissage se fait, hélas, trop souvent à la maison.
De quoi parle-t-on exactement quand on parle de soutien scolaire, Muriel Poisson ? Parce qu'il y a plein de possibilités, plein de produits différents de soutien scolaire.
C'est vrai que nous, quand on parle de soutien scolaire, on parle de cours privés où il y a échange d'argent, c'est-à-dire qu'on ne parle pas, par exemple, des grands frères qui donnent un peu des cours à leurs petits frères, petites sœurs, pour les aider. Donc, pour nous, c'est qu'il y a un échange marchand, on paye pour ça. Mais après, ça recouvre tout un tas de cas différents, des enseignants qui proposent des cours particuliers à leurs propres élèves à la fin des cours, à des étudiants ou des enseignants qui proposent des cours à d'autres élèves à l'extérieur de l'école, jusqu'à des institutions, parfois très importantes, qui proposent des cours privés dans des amphithéâtres devant plusieurs centaines d'élèves, comme ça se pratique par exemple à Taïwan, et des institutions qui sont même cotées en bourse. Donc entre les enseignants qui proposent des cours privés à leurs propres élèves et des grosses institutions de cours d'enseignement privé cotées en bourse, on voit qu'il y a une large galaxie de cas.
Philippe Colléon, avec près de 100 000 élèves par an qui font appel à vos services, vous revendiquez finalement quelle fonction dans le système éducatif français aujourd'hui ?
D'être un terrain neutre entre l'école et la maison.
Précisément, en même temps, votre terrain neutre, c'est celui qui suscite le plus de débats, notamment par les enseignants à l'éducation nationale.
Pourquoi ?
Même si leurs enfants font appel aussi
à
des cours particuliers.
Mais juste ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu ce qu'on appelle le marché du soutien scolaire en France, où effectivement, on est un des pays champions du monde. On parle de chiffres entre 1,8 milliard et 2,2 milliards par an. La réalité, vous prenez tout le monde des entreprises, on fait 300-400 millions d'euros. Donc où est ce marché ? Ce marché est essentiellement occupé par les enseignants eux-mêmes qui donnent des cours ou à d'autres élèves ou à leurs propres élèves. Donc, si vous voulez, en fait...
Vous voulez parler d'un marché non déclaré, c'est ça, d'un travail non légal, ce qui n'est pas le cas de votre entreprise,
bien évidemment. Qui est à 80% effectivement non déclaré, je parle pour les enseignants français.
Ce qu'on appellerait l'informel pour le continent africain.
Exactement, ou au gris, parfois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on associe le développement de ce marché au monde des entreprises. C'est pas vrai. 70% de ce marché est encore un marché occulte.
Donc, qui vous échappe à vous et à vos concurrents.
Oui, mais c'est où de l'autre côté, les enseignants voient dans le développement d'entreprises comme les nôtres un marché qui leur échappe. C'est plutôt l'inverse.
Et pourtant, il y a une fiscalité qui est très attractive, puisque les familles ont des réductions d'impôts si elles payent des cours de soutien scolaire à leurs enfants. Ce qui veut dire aussi, donc, quand elles font appel à une entreprise comme la vôtre, mais ce qui, évidemment, veut dire que ça ne concerne que les familles qui sont imposables. Donc, les familles les plus modestes ne profitent pas de ces déductions d'impôts puisqu'elles ne payent pas d'impôts. Donc, elles n'ont pas cet avantage.
Alors, si vous me permettez, ce n'est pas vrai. Les familles non imposables, dans certains cas, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pas d'une réduction d'impôt, c'est-à-dire que l'État peut rembourser l'écart justement par rapport à cet avantage fiscal.
Et elles le savent, elles font appel à cette possibilité-là.
Ça ne se sait pas assez.
Muriel Poisson, plutôt François Robert, qu'est-ce que ça dit globalement d'un système éducatif, un pays où les cours à domicile, les cours après l'école sont extrêmement développés?
Bah, ça dit d'abord la défaillance du système éducatif, c'est-à-dire que le nombre de jours d'école, le nombre d'heures d'école n'est pas au complet, on a manqué ça, on a manqué d'assiduité, l'école n'a pas complètement fonctionné. Ça déjà, basiquement on peut dire ça. Dans un certain nombre de cas, ça peut être plus grave que ça, c'est-à-dire que ça peut être le gouvernement, les autorités publiques qui laissent la profession enseignante s'organiser, qui favorisent même éventuellement cette organisation pour se payer sur la population, pour vivre sur la population, parce qu'on a des politiques de salaire trop bas, parce qu'il y a beaucoup de complaisance dans cette gestion. Lorsque dans un établissement, on va banaliser des après-midi complètes pour organiser des cours payants, des soutiens, on a là
À quel pays vous pensez, par exemple ?
La Côte d'Ivoire, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, où des après-midi complètes dans l'enseignement secondaire sont laissées à la libre organisation, même parfois au sein de l'établissement, de leçons payantes.
Donc, sur décision du chef d'établissement ?
Décision, vous ne verrez jamais une décision écrite, naturellement.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle donc du soutien scolaire, petit cours après l'école.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh bien, tiens. Il y a quand même une émission qui pense à tous les mondes.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins, entre nous là, entre les voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Un voisin nous appelle de Niamey au Niger. Bonjour Garba.
Bonjour madame.
Garba, vous avez 36 ans, 15 ans de carrière dans le primaire. Vous êtes directeur d'une école publique depuis 8 ans. Quelle est la situation ? Je crois que vous donnez vous-même personnellement des cours particuliers le soir au domicile de famille lorsque vous avez terminé votre journée de travail dans votre école.
Tout à fait, tout à fait.
Expliquez-nous un petit peu.
Oui, en fait... Lorsqu'on descend de l'école l'après-midi, on part directement donc pour les cours à domicile, c'est-à-dire que nous retrouvons cette fois-ci les élèves chez eux.
Oui.
Donc nous essayons de leur apporter un soutien scolaire et essayer de remédier par rapport à des difficultés que nous arrivons à constater chez eux.
Donc vous faites ça après 17h30?
Oui, c'est-à-dire à l'après-midi, quand on descend à 17h30, là on continue directement, on retrouve, comme je disais, on retrouve les enfants chez eux, à la maison, et c'est une sorte de contrat que nous faisons avec les parents.
Et qui sont ces élèves? Ce sont des élèves de l'établissement?
Non, c'est des élèves d'autres établissements.
D'école primaire ou du secondaire?
Non, d'école primaire. Ce sont des élèves, puisque j'interviens à l'école primaire, donc je maintiens aux élèves de l'école primaire.
Et comment vous les connaissez, ces élèves, si ce ne sont pas vos élèves dans votre école?
Effectivement, vous savez, comme nous sommes à Niamey, il y a les relations, il y a les autorités administratives, vous savez, il y a des parents qui passent par des relations pour avoir les répétiteurs. Souvent, c'est nos conseillers qui nous appellent. Il y a des parents qui viennent directement au niveau des inspections réclamer vraiment des répétiteurs. Ou souvent, c'est des parents qui vont à l'école, qui vont directement dans les écoles. Et nous, de là, souvent, nous laissons nos coordonnées. C'est-à-dire que quand en début d'année, nous laissons les coordonnées dans les écoles.
D'accord.
Un peu partout, nous sommes là pour tout besoin. Prenez attache, appel, voilà les numéros, les coordonnées. Donc, on nous appelle et ça marche comme ça.
Ça marche comme ça. Et donc, les cadres du ministère, eux aussi, peuvent relayer le fait que vous êtes disponible pour donner des cours particuliers, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Quels sont les tarifs que vous pratiquez, Garba ?
Je n'entends pas.
Quels sont les tarifs que vous pratiquez ?
Oui, les tarifs, moyennement, c'est 25 000 francs par mois. En moyenne, 25 000 par mois et par élève.
Donc ça fait à peu près 38 euros pour combien de séances par semaine pour un élève ?
Voilà, pour 3 séances par semaine. À raison de 3 séances par semaine. Donc à raison de 3 séances par semaine.
Mais à ce prix-là, on peut payer une école privée pour son enfant, non ?
Oui, effectivement, madame, malheureusement, c'est même les écoles privées où les parents payent l'argent, c'est encore dans les mêmes écoles privées là où on recommande encore les répétiteurs.
Ah oui, donc on ne fait pas d'économie, c'est l'escalade. D'accord,
ouais.
Très bien. Garba, je sais que vous donnez aussi des cours dans votre école, mais dans ces cas-là, ce sont les mêmes tarifs aussi ?
Non, c'est pas les mêmes tarifs. Cette fois-ci, c'est avec l'intervention, je dis bien, d'un projet, le projet EPTJK.
C'est-à-dire avec l'Agence japonaise de coopération, hein.
Tout à fait. C'est un projet qui intervient dans le secteur éducatif. Ils essayent d'identifier les problèmes auxquels les enfants font face et apportent des solutions.
Merci Garba de nous avoir appelé pour ce témoignage. On voit bien en effet, Muriel Poisson, l'éventail assez large de possibilités que vous inspire ce témoignage.
Je pense que ce qui est intéressant dans le témoignage qu'on a entendu, c'est que les cours qui sont proposés, privés, les plus chers, ils sont proposés quand même à l'extérieur de l'école et pas pour les enfants de l'école. Ce qui n'est pas le cas partout, parce que on l'a vu, dans un certain nombre de pays, c'est les enseignants de l'école qui proposent les cours à leurs propres élèves. Et là, ça peut poser un certain nombre de problèmes, notamment de faire pression sur les parents pour que leurs enfants suivent les cours, de défavoriser ceux qui n'ont pas suivi leurs propres cours particuliers, donner les tuyaux aux examens pendant les cours, etc. Donc là, on voit que c'est à l'extérieur de l'école. Ça, c'est une chose. Oui.
Philippe Colléon, ce qui était intéressant, c'est que notre ami Garba nous disait que quand on met son enfant dans une école privée, on fait encore plus appel à un répétiteur privé, alors qu'on pourrait imaginer que l'école, si elle fonctionne mieux, justement, il n'y a plus besoin de répétiteurs. Est-ce que vous, votre clientèle en France, ce sont essentiellement des élèves d'école privée ou pas forcément ?
C'est 50%. 50% de nos élèves sont en école privée, alors que je crois que ça représente que 20% des élèves scolarisés en France. Donc on va dire que c'est surpondéré.
Donc surreprésentation tout de même, donc des élèves...
Tout à fait.
Et donc de classes aisées.
Je pense qu'il faut aussi enlever un certain nombre d'images comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui considèrent que l'éducation est prioritaire et que on parle de budget bien sûr important, mais on parle de budget de 50, 100 euros par mois. Et bien, il y a des parents peut-être modestes qui eux-mêmes souffrent d'éducation.
Enfin, c'est quand même un budget qui n'est pas à la portée de bon nombre de foyers tout de même.
C'est le prix d'un portable pour l'enfant.
Oui, mais enfin pas tous les mois, on n'achète pas un portable tous les mois.
Mais l'abonnement est à 30 euros ou 25 euros.
Où s'achève l'aide aux élèves en difficulté ? Où commence la corruption d'un système ? Ça aussi, c'est une question que l'on peut se poser. À suivre, juste après le flash, le reportage de Delphine Bousquet au Bénin à Cotodou. Et bien sûr, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Que pensez-vous de ces pratiques, vos témoignages en tant que parent, en tant que répétiteur ou en tant qu'élève ? 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bien. Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle éducation comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, les cours particuliers, soutien scolaire après l'école. Le soutien et ses pratiques commerciales se nourrissent-ils d'un affaiblissement des systèmes éducatifs, d'un climat anxiogène ou bien ces petits cours sont-ils finalement tout simplement un gage d'une meilleure attention à certains enfants? On en discute avec vous, Muriel Poisson, spécialiste de l'éthique dans les systèmes éducatifs à l'UNESCO. Philippe Colléon, vous êtes directeur général d'Acadomia, le numéro 1 du système du soutien scolaire en France, qui est le pays champion du monde des petits cours après l'école, même si ce n'est pas le seul pays. Et bien sûr, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. François Robert, consultant spécialiste de l'Afrique, est également avec nous dans un autre studio grâce aux moyens de France Bleu en province. Et puis, je vous lis le message de Pathé qui poste ce message. 18 ans, il est à Fatick au Sénégal. Il nous dit « Moi, au lycée, je n'avais pas les moyens de me payer des cours particuliers. Ça coûtait 5000 francs CFA le mois, donc 7-8 euros. J'ai quitté mon lycée parce que je ne pouvais plus supporter que des élèves qui n'étaient pas plus intelligents que moi et des notes bien meilleures que les miennes, tout simplement parce qu'ils prenaient des cours particuliers et le professeur, évidemment, faisait travailler les élèves en cours particuliers sur le sujet du contrôle. Donc j'avais des 10 et eux avaient des 17 et des 18 sur 20. Aujourd'hui, je suis quand même à l'université. » Voilà, ça c'est le témoignage de Pathé. J'aurais maintenant qu'on écoute le reportage de Delphine Bousquet au Bénin où le gouvernement vient d'interdire les travaux dirigés payants, ce qu'on appelle TD au Bénin, dans des établissements publics, du primaire à l'université, des travaux où finalement il s'agit de soutien scolaire, hein, en dehors des cours, à l'intérieur des établissements. Je vous propose d'écouter les explications de Ignace Vissot, qui est conseiller technique au dialogue social au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle.
Les dérives qu'on observe chez certains enseignants, c'est qu'ils font exprès de ne pas aborder dans le détail certains contenus notionnels dans leur salle pour pouvoir obliger les apprenants à venir suivre son TD payant. Il y a que certains enseignants, exprès à la veille des évaluations des devoirs surveillés, font passer des parties de la composition déjà en TD. Toutes choses qui obligent ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, de le rejoindre dans les fois à venir. Et en ce moment, les élèves qui n'ont pas les moyens financiers pour participer à ces séances d'entraînement-là sont laissés pour compte. Ce qui fait que pour les séquences d'apprentissage formelles qui viennent après, la classe devient une classe à deux vitesses. Ce qui est sûr, il ne faut pas utiliser les infrastructures publiques, il ne faut pas utiliser les moyens de l'État pour faire de la discrimination vis-à-vis de certains de nos enfants dont les parents sont un peu déshérités.
Le problème de ces TD payants, c'est que finalement, c'est comme si ces profs faisaient un travail de répétiteur, mais dans l'école.
Oui, font un travail de répétiteur dans l'école. Et si on ne freine pas ce genre de pratique, ça a tendance à se généraliser partout. Certains enseignants disent TD pour les élèves du 6e, ceux qui viennent de commencer, qui n'ont pas encore montré des signes de faiblesse, on dit TD, TD, TD. Quand vous voyez certains enseignants, vous constatez que leur objectif, ce n'est pas d'élever le niveau de compréhension des apprenants, mais c'est se faire de l'argent. Donc, le gouvernement ne veut plus entendre parler de ça. Plus de TD payants dans les établissements publics d'enseignement.
Voilà maintenant ce qu'en pense un parent d'élève. Jean, il est à Cotonou également, il est commerçant, il préside l'association des parents d'élèves du collège de ses enfants, le CEG d'Akpakpa Centre, qui est un des plus vieux établissements de Cotonou, avec 4000 élèves de la 6e à la terminale, 300 enseignants, donc 40 titulaires. Et dans ce collège, les parents ont instauré eux-mêmes les TD pour relever le niveau très faible des élèves contre une petite cotisation annuelle. Écoutez-le.
Nous, les parents d'élèves, nous avions constaté que vraiment le niveau de nos enfants, ça a baissé. À cet égard, nous avions convoqué une assemblée générale et nous avions adopté accompagner les enfants avec TD. Et ce serait payant 3e, 3000, terminale 5000, francs CFA. En collaboration avec la direction et quelques professeurs de qualité qui viennent d'ailleurs pour renforcer ceux d'ici, pour qu'on ait un bon résultat. Ce n'est pas le rendement qu'on perd, On essaie de donner quelque chose pour le déplacement, pour acheter des carburants, tout ça. Et nous avions constaté que cette année, vraiment ça a donné pour le brevet carbone, le baccalauréat. Dans notre circonscription, il y a 18 collèges. Nous sommes dans les 5 premiers. Ça a marché considérablement.
Quand est-ce que se déroulaient ces TD?
L'année passée, les TD se déroulent le samedi 7h à midi ou à 13h. Ça dépend de l'épreuve qu'ils ont à faire.
Est-ce que tous les parents d'élèves de 3e et de terminale ont payé pour ces TD?
La majeure partie ont donné. On ne peut pas avoir les recettes à 100%. Et on accepte des fois des parents qui n'ont pas d'argent. On ferme les yeux des fois sur ça.
Le gouvernement a décidé d'interdire les TD payants dans les établissements publics. Donc il n'y en a plus cette année.
Ça nous a gênés, mais on n'a pas le choix. Nous allons avertir aussi les parents que le gouvernement a dit telle chose. Donc désormais, occupez-vous des enfants bien à la maison pour que fin d'année, nous ayons les résultats.
Un des arguments donnés par le gouvernement, c'est que certains professeurs cherchent à se faire de l'argent. Et que si c'est comme ça, il faut que ce soit hors de l'école.
Nous travaillons en collaboration avec l'administration et on ne peut pas imposer quelque chose. Non. Sinon, les parents n'ont pas de l'argent pour payer par tête chaque élève à la maison. Parce qu'un professeur qui coûte 25 000, 30 000 francs et tu auras au moins 3 professeurs pour accompagner les enfants à la maison, ce qui fait déjà 90 000 par mois. Non. C'est dans ce souci que nous avions dit que si nous sommes ensemble, on est fort. Fini, on va rester ensemble et chercher les projets pour aider les enfants. Nous, on attend les résultats.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et on existe ensemble.
Alors François Robert, est-ce que le Bénin est sur la bonne voie en interdisant ces fameux TD dans les collèges ou pas? Quand on entend la réaction des parents d'élèves qui disent du coup on va aller sur un marché privé, ça va nous coûter encore plus cher, on peut se poser la question.
Oui, c'est un peu complexe. Alors le Bénin, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Bénin récemment a marqué des points pour remettre de l'ordre à l'école et en particulier à l'école secondaire. Ils se sont attaqués aussi à un marché très très particulier de vacations de profs qui n'était pas très propre. Et on sent une volonté du gouvernement d'aller dans cette direction-là. Mais il ne vous a pas échappé non plus que la mesure est une sorte de premier pas, mais qui ne comprend pas le second pas. C'est-à-dire on interdit les cours dans l'enceinte des établissements, mais on les laisse faire à l'extérieur, de sorte que des pratiques qui peuvent, pour appeler les choses par leur nom, qui peuvent aller jusqu'aux raquettes, des pratiques comme ça peuvent continuer. Et on a cette réaction tout à fait intéressante, mais aussi un petit peu ambiguë de l'association de parents d'élèves, qui dit « bon, nous on va pallier, on va organiser quelque chose ». Une réponse collective qui est déjà nettement plus adaptée qu'une réponse individuelle, puisqu'elle permet, au dire du monsieur que nous avons entendu, puisqu'elle permet aussi d'accueillir des familles qui peuvent éventuellement pas payer.
Donc on a en tout cas de négocier les tarifs.
De négocier les tarifs et de faire appel à un enseignant qui n'est pas un enseignant de l'établissement. Mmh. Il manquerait peut-être un deuxième aspect de la réponse collective, c'est que les associations de parents d'élèves, elles peuvent aller chatouiller les autorités aussi, en disant, mais on attend que la prestation qui est faite par le collège ou par le lycée soit une prestation complète et que le fait pour un enfant d'être présent, assidu au cours dans ce collège et dans ce lycée devrait suffire pour pouvoir affronter les compositions et les examens. Je crois qu'on a dans ce reportage tout, c'est-à-dire un gouvernement qui fait un premier pas, c'est excellent. On peut comprendre que le gouvernement ait du mal à aller plus loin et de se mettre éventuellement dans une relation difficile avec la profession enseignante, surtout qu'on sait qu'elle est très 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 puissante et syndiquée au Bénin et qu'on a vite fait de déclencher des grèves là-bas. Donc une réaction collective des parents d'élèves qui est tout à fait bienvenue, mais qui pourrait, au lieu d'être simplement là pour pallier les déficiences du système scolaire, qui pourrait aller jusqu'à une intervention en
pour
alliance
améliorer
objective.
La qualité.
Voilà,
pour améliorer la qualité. Mais
pour améliorer la qualité.
Est-ce que le marché du soutien scolaire privé n'est pas en lui-même quelque chose qui affaiblit la qualité des cours quand on entend que des profs font de la rétention d'informations pendant les cours gratuits pour les vendre ensuite dans le privé, Muriel Poisson.
Oui, ça c'est une partie du phénomène. Mais peut-être on s'est intéressé beaucoup au cas des enseignants qui proposent des cours privés à leurs propres élèves ou à d'autres élèves. Mais peut-être laissant penser
qui n'est pas un phénomène spécifique en Afrique, qu'on peut aussi retrouver d'ailleurs en France ou dans d'autres pays développés.
Mais laissant penser que potentiellement le marché privé géré par des institutions privées fonctionnerait mieux. Or, ce n'est pas forcément le cas. Dans beaucoup de pays, y compris un certain nombre de pays africains, les institutions qui proposent des cours d'enseignement privé recrutent les enseignants sans avoir des critères très clairs. La qualité de l'enseignement qui est proposé n'est pas forcément très bonne. Il y a beaucoup de chômage, ça contribue parfois à débaucher les enseignants et une politique active de débauchage des enseignants. Donc il ne faudrait pas présenter les cours privés proposés par des institutions à l'extérieur du système comme une panacée, une alternative au système. Et je pense que c'est plus effectivement dans le sens que disait monsieur Robert, quoi, que ça pose surtout des questions à l'école. Comment mettre en place des cours de soutien, par exemple des cours d'aide aux devoirs, qui ne sont pas nécessairement payants, ou en tous les cas, en veillant à ce qu'il y a des tarifs qui soient accessibles pour les familles les plus démunies, qu'on peut trouver la solution. Et puis au-delà, ça pose la question aussi de la qualité de l'enseignement qui est proposé, d'une pédagogie qui prend en compte les besoins différents des élèves, et aussi des systèmes de tests et de sélection qui sont en place dans le système, qui contribuent beaucoup à développer ces cours privés.
Oui. Philippe Collet, vous entendiez ces témoignages sur le continent africain où les parents arguent de la mauvaise qualité du système éducatif et donc, sous-entendu, nos enfants ne vont pas apprendre suffisamment. En France, est-ce que ce sont les élèves les plus en difficulté que vous avez comme clients ?
Alors, on a de tout, par définition, mais aussi par définition, il y a moins de très bons élèves. Mais si on regarde proportionnellement, si on prend les grands établissements scolaires parisiens ou français ou grands, etc., tous les élèves, quasiment, ont des cours particuliers. D'accord ? Après, chacun a son objectif. La vraie question, en fait, c'est le rapport de l'éducation et de l'argent. Parce qu'on dit, effectivement, le système scolaire est gratuit. Il n'est pas gratuit, il coûte 60 milliards, déjà, à la communauté. Mais il doit être égalitaire. La vraie question, par rapport au privé, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est un coût ou un investissement ?
Vous revendiquez une efficacité.
Je revendique, un, que c'est efficace, mais que, deux, c'est un vrai métier. Et effectivement, il y a un marché qui est très très large.
C'est un vrai métier, mais en même temps, vous n'avez pas forcément, vous ne proposez pas spécialement d'enseignants de métier à Acadomia.
Mais la question, souvent on demande des vrais profs.
Souvent des étudiants qui font du soutien scolaire.
Mais pas du tout. 60% de notre corps enseignant, on travaille avec 20 000 enseignants en France, ont été ou seront dans l'enseignement. Mais ce qui est important...
Oui, mais seront dans l'enseignement, ça ne veut pas dire qu'on est enseignant professionnel. C'est pas la même chose.
Je peux vous dire qu'il y a pour une typologie d'enfants, par exemple, un enfant qui n'aime pas l'école, il y en a beaucoup en France, un enfant qui n'aime pas l'école, ce qu'il faut avant tout, c'est lui apprendre pourquoi apprendre. Et c'est la proximité de l'âge qui va aider cet enfant. Si vous lui mettez, entre guillemets, le même prof qu'il a à l'école, il n'avancera pas.
On repart au standard au 33 1 84 22 71 71. Le soutien scolaire en débat, et c'est effectivement, ça pose beaucoup de questions. Nous accueillons Diderot qui est à Yaoundé ou à Douala au Cameroun. Bonjour Diderot.
Bonjour Emmanuel, je suis ni à Yaoundé ni à Douala, je suis à Penza, P-N-J-A.
D'accord, la capitale du poivre. Vous avez la parole, Diderot. Alors, vous êtes un jeune qui donne des cours à des élèves en privé ?
Oui, je suis normalement professeur d'espagnol au secondaire et je viens d'être affecté où je suis. Mais je donne des cours particuliers aux enfants du sous-préfet. Ils sont trois pour 45 000 francs le mois. Dans ce cas, j'estime que ces enfants ont besoin de ces cours parce qu'ils viennent du système anglophone. Bon, avec les problèmes de sécession qu'il y a eu là-bas, leur papa a été affecté dans la zone anglophone et il les a inscrits dans un collège francophone. Donc, ils ont besoin d'apprendre le français et l'anglais pour s'en sortir et s'adapter au nouveau système dans lequel ils sont.
Donc, vous répondez à une vraie nécessité pour des familles qui sont dans des situations compliquées. Et pour vous, vous arrondissez vos fins de mois en tant qu'enseignant.
Effectivement. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque quand j'étais à Yaoundé, je donnais les cours particuliers. Cette fois-là, c'était aux enfants des Russes, des grands DG et autres. Et là, j'estime qu'à ce niveau, ce n'était pas un besoin pour ces enfants, puisqu'ils étaient en majorité inscrits dans de grands et bons collèges de la ville, où ils avaient presque tout réussi.
Et alors, et pourquoi avait-il des cours supplémentaires? Il y avait un stress des familles, une surenchère?
Non, c'était surtout un moyen de montrer qu'on est au-dessus des autres, qu'on n'est pas au même pied d'égalité. Et c'était une différence, marquer la différence sociale parce que les parents sont, ils ont un peu d'argent, ils ont beaucoup d'argent et puis il faut gâter les enfants.
Ah oui, donc c'est un peu comme une voiture. C'est ça, c'est un peu comme d'afficher une nouvelle voiture, c'est cours particulier bling bling.
Effectivement. Donc c'était une manière de gâter les enfants qui n'ont vraiment pas besoin de ces cours-là et puis de montrer qu'ils sont différents des enfants normaux qui sont dans les autres établissements.
Merci de votre témoignage. Très bonne journée. Nous accueillons Selou qui est à Koundara dans le nord de la Guinée. Bonjour Selou.
Bonjour Emmanuel, vous allez bien?
Très bien. Merci de témoigner dans l'émission. Vous donnez des cours particuliers à vos propres élèves?
Oui, bon, je donne des cours particuliers à mes propres élèves et aux élèves des autres familles aussi, dont les parents me contactent par nécessité.
Oui. Vous êtes instituteur en école primaire, hein, c'est bien cela?
C'est sûr, oui.
Mais comment se fait-il que les élèves aient besoin de cours particuliers à l'école primaire? L'école ne fonctionne pas normalement? Vous ne faites pas votre travail dans la journée?
Non, nous faisons très bien notre travail dans la journée, mais vous savez, bon... Et les cours particuliers, bon, ça donne un plus aux cours que nous faisons le matin, parce que ça permettra les explications que nous allons apporter, bon, dans les différents cours particuliers, permettra aux enfants de bien appréhender ou bien de combler les lacunes qu'ils n'avaient pas pu comprendre durant les cours en classe. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste parce que ça permettra aux enfants de mieux comprendre encore les cours.
De mieux comprendre. Donc vous êtes en train de nous expliquer que l'école guinéenne ne fonctionne pas normalement?
Bon, ce n'est pas parce que l'école guinéenne ne fonctionne pas normalement. Oui, bien sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas. Mmh. Mais quand même, je ne pense pas qu'on nous donne des cours particuliers parce que l'école ne fonctionne pas. Mais plutôt, c'est pour un peu améliorer la qualité encore de l'enseignement reçu le matin. C'est ce que nous faisons dans les cours particuliers parce que ça va amener les enfants à mieux comprendre les leçons qu'ils n'avaient pas très bien assimilées.
On a bien compris. Mais alors, quand on fait payer ses propres élèves pour des cours supplémentaires, ça donne quoi, question de note?
Bon, ça n'a aucun impact sur les notes, mais plutôt...
Ah bon? Mais alors, ça sert à quoi pour les parents, alors?
Pardon?
Ça sert à quoi pour les parents de payer des petits cours s'ils n'ont pas de meilleures notes avec vous?
Bon, on ne fait pas de cours pour que les parents puissent pour que les enfants puissent avoir de très bonnes notes, mais plutôt pour les permettre de comprendre. Parce que ce n'est pas parce que les parents payent les cours particuliers qu'il faut donner des notes aussi qui ne se correspondent pas au niveau de l'enfant.
Selou, le fait de donner des cours à ses propres élèves, c'est un dysfonctionnement, c'est de la corruption ou pas?
Bon, c'est loin d'être la corruption, c'est parce que ce sont les parents de ces enfants-là, même de ces élèves-là même, qui contactent les enseignants, qui les proposent de faire des cours.
Qui vous le demandent. Et donc, vous n'avez pas le courage de refuser. Merci beaucoup.
Je n'ai pas eu le courage de refuser parce que bon, ça permettra aux enfants de mieux encore comprendre.
Merci, Selou. On a bien compris. Pape est également en ligne dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaï. Bonjour, Pape.
Bonjour, Raymond.
Alors, vous êtes dans le business des cours particuliers ou pas du tout, Pape?
Voilà, nous ne sommes pas dans le business comme que vous l'indiquez. Mais juste, nous sommes constitués un amical, c'est-à-dire une association donc d'élèves et étudiants. Donc, vis-à-vis donc de ces discernements qu'il y a donc entre les élèves, on est censé donc organiser des cours de renforcement gratuits pour ces élèves qui n'ont pas le moyen donc de se payer des cours privés, comme vous le dites.
Ouais. Et pourquoi vous avez monté cette amicale gratuite? Donc là, vous êtes sur du bénévolat, donc les uns et les autres en tant qu'étudiants.
Exactement. Parce que tout simplement, donc, c'est via notre expérience, une expérience que nous avons eue au lycée, c'est-à-dire que nous avons subi, comme pas mal donc, des élèves, de cette injustice-là, c'est-à-dire des gens qui ont le moyen vraiment de se payer des cours de renforcement et qui nous devancent un peu, hein, pour au cours des examens ou bien des devoirs. Et pour nous, donc, c'était une injustice parce que nous n'avions pas du tout ces moyens-là de payer ces cours de renforcement pédagogique.
D'où, du coup, votre idée de créer un système de bénévolat donc, pour lutter contre ce système. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Juste, nous prenons une minute, un parent d'élève qui nous appelle de Cotonou concernant les cours de soutien, puisque le gouvernement a décidé de faire un grand ménage dans les cours de soutien institutionnalisés dans les établissements publics. Bonjour, Raouf.
Oui, bonjour, cette milliard de voisins.
Comment vous réagissez en tant que parent d'élève?
Oui, je suis parent d'élève à Cotonou.
Oui, allez-y, Raouf, on vous écoute.
Vous avez dit que le gouvernement béninois a fait le ménage, mais le ménage a été fait uniquement au niveau de l'école publique. Mais au niveau des privés, la pratique continue et chacun fait ce qu'il veut. Donc, à ce niveau-là, ça existe encore.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant que parent d'élève?
Oui, en tant que parent d'élève, je trouve que ça s'est imposé. Et on ne demande pas la participation des parents d'élèves avant de prendre ce genre de décision. Au départ, c'était les classes d'examen. Mais aujourd'hui, ça s'est élargi aux classes pré-examen, à savoir les classes de quatrième et les classes de première.
Oui, ça commence de plus en plus tôt. Merci beaucoup, Raouf, de nous avoir appelés. Alors, comment mieux comprendre la situation à l'heure actuelle, Muriel Poisson? Où se situe la frontière entre un système commercial, tout ce qu'il y a de plus légal, un système commercial comme un autre, et puis un système corrompu?
On l'a vu, je pense, dans les interventions des différents auditeurs. C'est-à-dire qu'on voit que, notamment, lorsque les enseignants enseignent à leurs propres élèves, quelque part, il y a un peu un conflit d'intérêts, puisque c'est aussi eux qui jugent les élèves, c'est eux qui leur donnent des notes au moment des examens, c'est eux qui décident de leur passage de classe. Ça ne veut pas dire que tous les enseignants qui proposent des cours privés à leurs élèves ont de telles pratiques, mais ça place les enseignants dans une situation où ça peut produire de telles pratiques. D'où le fait qu'un certain nombre de pays comme le Bénin essayent un peu de réguler ça en interdisant de manière un peu autoritaire le fait de donner ces cours. Il y a d'autres pays comme la République de Corée par exemple qui a essayé à plusieurs reprises d'interdire ce type les cours privés qui sont offerts dans les établissements scolaires pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais l'expérience prouve que ça marche pas parce que il y a une demande, et on l'entend bien de vos différents auditeurs, et la demande est très forte parce que les parents ils veulent que leurs enfants suivent les cours en question, et donc ça déplace le problème vers les cours qui sont proposés à l'extérieur de l'école et de la régulation de ce marché qui est proposé à l'extérieur de l'école, et comment mettre en place un minimum de système de certification, peut-être de contrôle par les autorités publiques pour vérifier qu'il y a un minimum de qualité dans les cours qui sont proposés, dans le profil des enseignants qui sont recrutés et aussi dans les tarifs qui sont proposés, parce qu'on l'a vu dans différentes aussi interventions, il y a la volonté de trouver des systèmes de bénévolat ou d'organisation, etc., pour traiter cette question des tarifs.
En France, le gouvernement a annoncé, après les vacances de la Toussaint, vous êtes au courant, Philippe Colléon, qu'il y allait avoir des systèmes d'aide aux devoirs pour les collégiens. Est-ce que vous, par exemple, en tant qu'Academia, société privée de cours particuliers, ça vous met en danger ou pas spécialement? Si l'État reprenait davantage la main sur l'aide aux devoirs, vous nous le disiez en début d'émission, la France, vous avez un très beau marché de cours particuliers parce que la France est un des pays au monde où il y a le plus de devoirs à la maison. Donc les parents sont débordés.
J'étais un petit peu provocateur, si vous me le permettez. On est très fiers d'inspirer l'éducation nationale, inspirer l'éducation en faisant des stages de pré-rentrée, ce que nous faisons depuis 20 ans. Maintenant, effectivement, le soutien scolaire. Bon, donc tant mieux. Enfin, même en tant que parent.
Sous-entendu, il y a de la place pour tout le monde, pour l'État et pour vous.
Exactement, exactement. Je regrette une seule chose. Nous, ça fait effectivement 20 ans qu'on fait ce métier. On a suivi 1 million d'élèves et qu'à aucun moment, l'État, le ministère, nous appelle en disant, écoutez, vous connaissez peut-être bien ce métier, est-ce qu'on peut simplement dialoguer ensemble? C'est-à-dire que cette barrière privée-publique, c'est dommage aujourd'hui qu'on voit l'État, souvent, de l'éducation nationale en France, qu'il n'y ait pas une discussion entre privé, public, monde associatif, pour le bien de tous.
François Robert, je vous laisse le mot de conclusion. Comment lutter contre les mauvaises pratiques, et puis comment peuvent survivre aussi une certaine liberté pour les parents, pour le bien des élèves et la réussite des élèves, selon vous?
Là-dessus, moi, je dirais deux choses ou trois choses. La première chose, en s'adressant aux parents, et je crois qu'il me semble que ça découle clairement de ce qu'on a entendu, si vous payez quoi que ce soit pour des cours particuliers, jamais à l'enseignant de votre enfant. Jamais, en aucun cas, c'est malsain. La deuxième chose peut-être, c'est si vous payez quelque chose, c'est pas forcément pour refaire les cours de l'école ou pour expliquer davantage. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'enjeux à faire quelque chose qui serait plus proche du coaching, aider, amener l'enfant à se débrouiller tout seul avec les bouquins, avec les cours qu'il a déjà eus, refaire les travaux qui ont eu une mauvaise note pour voir ce qui a pas marché, à arriver à devenir plus autonome sur son travail plutôt qu'à absorber toujours des explications de même nature, ce qui le fera pas grandir pédagogiquement. Et puis peut-être la dernière chose, ce serait bien un jour si dans les ministères de l'éducation en Afrique, on essayait de faire quelque chose pour se débarrasser de l'obsession de la note.
Il n'y a pas qu'en Afrique.
C'est une obsession virale qui est encore plus létale, encore plus dangereuse en Afrique qu'en France, avec cette espèce de règle absurde du passage à la moyenne, à 10 vous passez, à 9,9 vous passez pas, qui n'a pas de sens et qui est totalement inique et injuste.
Ouais, mais c'est la promesse d'Acadobia, on augmente sa moyenne de tant de points si on prend des cours chez vous.
L'apprentissage, le fait d'apprendre des choses, de penser par soi-même, d'être capable d'apprendre tout seul, c'est pas une question de 9 sur 20, 10 sur 20, c'est quelque chose de beaucoup plus ample et plus riche. Et je pense qu'il y a un travail pédagogique à faire de fond dans les ministères pour arriver à se détacher un peu progressivement de cette obsession de la note et de la moyenne.
Merci à vous tous. François Robert, on peut lire vos réflexions sur le fameux abécédaire portatif des écoles africaines. Muriel Poisson, je recommande votre site web hébergé par l'UNESCO, ethico.org.fr. On retrouve ça très facilement. Et merci à vous, Philippe Colléon, directeur général d'Acadomia. Peut-être un jour sur le continent africain. Vous nous donnerez des nouvelles.
Très bientôt.